Bonjour tout le monde. Voilà, très content d'être encore avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément. Je suis venu avec mon épouse Chloé. Et la majorité des gens qui sont ici savent pourquoi on est mariés, parce que c'est vous qui avez fait notre mariage il y a un an en arrière. Et c'est ce que je disais à Chloé ce matin. Je porte le même costard qu'il y a un an et je suis très content d'avoir écouté la vendeuse. Elle m'a dit « prends la taille au-dessus ». Et après un an, je peux vous dire qu'effectivement, j'avais bien besoin de prendre la taille au-dessus. Ce matin, j'ai été touché, encouragé par un texte en Philippiens. Le premier chapitre, et il parle un peu de cet attachement que Paul a pour les Philippiens, pour les chrétiens de Philippe. Et je vous lis deux phrases qui, pour moi, font écho à mon attachement pour vous. Philippiens 1. « Je dis à mon Dieu tout le souvenir que j'ai de vous. » Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dieu m'en est témoin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. Et on était touchés par ce qu'on a vécu avec vous, comme on a été bénis par vous et dans ce souvenir qu'on a de vous. Moi, dans mes prières, je dis merci Seigneur pour ce que vous êtes en Christ et pour la part que vous prenez à l'Évangile. Et la prière de Paul pour les Philippiens, c'est aussi la mienne ce matin pour vous, c'est « Je prie que le Seigneur fasse grandir votre amour en connaissance et en pleine intelligence pour que vous sachiez ce qui est essentiel, ce qui est important. Alors vous serez remplis de justice, remplis du fruit de justice, pur et irréprochable pour le jour où Jésus va revenir. » Et ça, c'est ma prière ce matin. Vous êtes des modèles dans la foi, mais Dieu veut encore nous amener un pas plus loin. Et c'est ce que j'espère qu'il peut faire ce matin au travers de cette prédication. On incline notre tête et on prie ensemble pour ce temps. Seigneur, parle ce matin et que la grandeur de Jésus-Christ soit manifestée par ta parole, par mes mots. Père, ton esprit est là, ton esprit est présent, ton esprit habite en moi et en nous, Seigneur. Tu vois les prières qui ont été déversées pour ce moment. Je te prie véritablement d'utiliser ta parole, de parler par ma bouche pour que mes chers frères et sœurs ici présents, ceux que je connais, ceux que je connais moins bien, puissent vraiment être encouragés par ton esprit, être fortifiés, être édifiés. L'œuvre que tu veux faire ce matin dans les cœurs, par ta parole, je prie que tu puisses la faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer par une petite question. Quelles sont les nationalités, les cultures qui sont dans cette salle? Quelle est votre culture d'origine ou nationalité? Algérie, algérienne. Chinoise. Antillaise, soyez pas timide, hein. On est en famille, on se connaît. Chinoise, antillaise, algérienne. Gabonais, gabonais, on dit gabonais? Ouais. Vietnamienne. Cambodgien. Il y a beaucoup encore. Est-ce qu'on a dit tout? Alsacien. C'est qui est alsacien dans la salle? Ah, t'es alsacien? Ah, waouh! Incroyable. Les Alsaciens sont fiers. Hein. Il n'y a pas de français, non? Français, ok. Bon, voilà. On est tous porteurs de notre héritage hein, culturel. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'en réalité, peu importe que vous me l'ayez dit ou pas, si je vous avais observé vivre suffisamment longtemps, j'aurais pu dire d'où vous venez. C'est vrai ou pas? Je vous regarde la manière dont vous organisez vos journées, la manière dont vous saluez. Les Français, on a tendance à faire la bise, même les hommes entre eux. Pour d'autres cultures, c'est totalement choquant. Si vous venez à la maison, vous allez ouvrir un tiroir, vous allez voir des baguettes et un ouvre-bouteille. Vous allez savoir qu'ici vit certainement quelqu'un de culture asiatique et un bon français. Vous ouvrez le fromage, vous allez voir dans l'étagère du bas une quantité astronomique de fromage. Et puis, dans la porte du frigidaire, un petit pot avec des écritures chinoises et puis beaucoup de rouge à l'intérieur. Voilà, on aime le piment à la maison. La manière et les habitudes de vie que vous avez, quelque part, je n'ai même pas besoin de regarder votre carte d'identité, je vais sentir, je vais voir votre origine. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Ok. Maintenant, mon épouse, Chloé, est chinoise. Si elle veut s'intégrer en France, qu'est-ce qu'elle doit faire? Manger du fromage! Eh bien oui! Elle doit apprendre à manger des raclettes comme les Français. Elle doit apprendre à râler comme des Français. elle doit apprendre le français, et bon courage là-dessus. Comment ? Faire la grève, voilà. Il y a des choses qu'on aime bien apprendre. Hein. 35 heures par semaine, ça c'est quand même pas mal de travail. 5 semaines de congés payés, voilà. Mais tout ça permet de savoir, ok, ce gars-là, il est français ou il essaie de devenir français. Ok. Il faut qu'elle imite. Il faut qu'elle fasse selon le dicton, je ne sais pas si vous connaissez, à Rome, fait comme les Romains, et en France, fait comme les Français. Dans notre texte ce matin, Paul encourage les Philippiens à ne pas faire comme les Français, mais à faire comme les citoyens du ciel. Les Philippiens, c'était des chrétiens, et il les encourage à imiter aussi. Alors, on va prendre le texte de ce matin, et pendant qu'on le prend, j'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Paul dit aux chrétiens, donc de Philippe, mais aussi au travers les âges, à toi et à moi, que nous sommes citoyens du ciel, que notre terre, nouvelle terre natale, c'est le ciel. Si on ressemble à ça, à notre origine, qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Est-ce qu'ils voient les caractéristiques, les manières de vivre d'un citoyen du ciel? Qu'est-ce qui ressort le plus quelque part? Alors, je vous invite à prendre ce texte, Philippiens 3, versets 17 à 21, dans la version que vous préférez, dans la langue que vous préférez. Et il va s'afficher. Ah non, il n'est pas là, il n'a pas passé, il est là, voilà. Je lis en Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. Je ne suis pas sûr que Paul mangeait de la fondue, mais il les imite à faire autre chose. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Amen. Est-ce que vous savez ce qu'est le droit de cité ? Le droit de cité, c'était un droit qu'on avait à l'époque quand, avant que ce soit des pays, le gouvernement était établi à l'échelle des villes. Et donc chaque ville était une cité et on était citoyen de cette ville. Et l'une des villes de l'époque, la plus grande ville, c'était Rome. C'était Rome. Et les citoyens romains avaient des privilèges très particuliers. Si tu étais citoyen romain, tu pouvais voter, tu pouvais te marier légalement. Et dans certaines situations, quelque chose qu'on aimerait tous savoir, tu pouvais même être exempté d'impôts. Alors, bien évidemment, beaucoup, tout le monde rêvait d'être citoyen romain. Tout le monde rêvait de pouvoir avoir cette nationalité, cette citoyenneté-là. Et il y avait deux chances, deux moyens d'obtenir ce droit-là. Le premier, c'était pour les plus chanceux de naître romain. Ton papa et ta maman étaient romaines. Ou alors, c'était de l'acquérir. Et alors, il y avait soit tu donnais beaucoup, beaucoup d'argent pour acquérir ce droit, ou alors tu servais la nation. Tu rendais un service à la nation d'une telle importance qu'au final, tu devenais citoyen romain. Devinez quoi ? Les Philippiens étaient dans cette situation. Les Philippiens, ils étaient loin de Rome. Rome, c'est dans l'Italie. Philippe, c'est en Macédoine. C'est plus au-dessus de la Grèce. C'est loin, mais c'est... Philippiens étaient, à cause de leur passé de guerrier, de militaire, étaient devenus citoyens romains et, un peu comme les Alsaciens, ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers d'être romains. Très, très, très fiers d'être romains. Mais Paul leur dit, Philippiens, frères et sœurs, chers Philippiens, vous n'êtes plus romains, vous n'êtes pas romains. Vous êtes avant tout citoyens de la patrie céleste. Vous êtes citoyen du ciel. Votre culture a changé. Et vous devriez être fier de ça, plus que d'être fier d'être romain, plus que de faire à Romain comme les Romains, d'être fier du ciel. Alors laisse-moi te poser une question ce matin. Est-ce que tu te sens plus français, plus chinois, plus algérien, plus alsacien, plus gabonais que citoyen du ciel ? Ou est-ce que tu te sens avant tout citoyen du ciel et appartenant au royaume de Dieu? Qu'est-ce qui te marque et qui t'imprègne le plus dans ton identité? Paul ne parle pas ici de double nationalité. Il parle de ton identité principale. C'est ça qui est avant tout ce que tu es maintenant. Ça ne veut pas dire que tu renies ce que tu es français ou chinois, mais avant tout, tu es citoyen du ciel. Et quand on le réalise profondément, ça se voit, ça change des choses dans notre vie. Il y a un prédicateur, un pasteur qui est maintenant décédé, qui est avec le Seigneur, qui s'appelait R.C. Sproul. Il raconte comment, il y a quelques années en arrière, il a fait le voyage dans des pays de l'Est. Il a été invité dans 3 pays, Tchécoslovaquie, Roumanie et Hongrie. Et on l'a prévenu qu'au moment où il entrerait en Hongrie, dans le train, avec ses amis qui étaient là pour faire un travail d'évangélisation, il fallait qu'il soit prévenu. Parce qu'eux, ils étaient Américains et les Roumains, ils n'aiment pas les Américains. Et donc, on les a prévenus, préparez-vous, vous allez certainement être harcelés, on ne va certainement pas être très doux avec vous. Donc, ils étaient prévenus. Et donc, effectivement, ils sont dans leur train là, qui avance tant bien que mal en Roumanie, et sans surprise, arrivé à la frontière, le train s'arrête et ils voient des soldats qui commencent à rentrer dans le wagon et à baragouiner, ils ne parlaient pas anglais, mais à leur dire, voilà, à exprimer qu'avec beaucoup de violence, qu'il fallait qu'ils descendent les bagages, qu'ils observent les bagages, qu'ils regardent ce qu'il y avait dedans. Et soudain, leur chef est apparu. Et leur chef, c'était un grand bonhomme comme ça, un grand gaillard, un peu patibulaire là. Et il parlait un anglais très approximatif, un peu avec un accent coupé au couteau. Et il a regardé un sac et il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Et là, le prédicateur, il s'est dit, oulala, on a des problèmes parce que dans le sac, il y avait une Bible. Et donc, ils ont pris la Bible et l'officier a commencé à prendre le livre et à feuilleter. Et puis il s'est arrêté et il tenait la Bible. Et puis il a regardé ce pasteur-là qui avait son passeport. Il avait le passeport du pasteur là, qui était américain dans le main. Et il y avait à côté une femme qui était là et qui avait la Bible dans son sac. Et il a regardé le pasteur dans les yeux et lui a dit, toi, tu n'es pas américain. Il a regardé la femme, elle s'appelait Verna. Il lui a dit, toi, tu n'es pas américaine. Puis il a pris la Bible et il a dit au pasteur, lis ici. Et le pasteur, il a lu le texte qui lui était pointé, il était écrit, notre citoyenneté est dans les cieux. Notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3:20. En fait, ce garde-là était chrétien. Et il avait compris que sa citoyenneté, avant d'être roumain, même si les Roumains détestaient les Américains, que sa citoyenneté, en premier lieu, elle n'était pas dans cette terre, mais elle était dans le ciel. Alors il a dit aux gardes, c'est bon, laissez ces gens tranquilles, ils sont OK, on peut les laisser passer. Compréhension profonde que son identité était chrétienne avant d'être roumaine, qui a changé la manière dont, à l'époque, les relations entre peuples pouvaient être violentes et ardues. De la même manière, Jonathan, tu n'es pas français. Bernard, tu n'es pas alsacien. Chloé, tu n'es pas chinoise. Mon frère, je ne sais pas comment tu t'appelles. Paul, tu n'es pas gabonais, ni romain. Je ne suis pas français. Tu n'es pas cambodgien, Tong. Tu es citoyen du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons la même citoyenneté. C'est quand même fou que dans cette salle, on soit tous citoyens d'origine différente et qu'en réalité, nous ayons le même pays. On a chanté tout à l'heure, nous sommes unis dans la famille et puis rien ne nous séparera parce que nous sommes unis les uns aux autres parce qu'on a cette même citoyenneté. Nous sommes même peuple. Et tous les Français se serrent les coudes quand il y a la Coupe du Monde jusqu'à la demi-finale. Mais nous, en réalité, on a un pays qui est bien plus grand et qui est éternel. OK. Ça, c'est le fait, ça, c'est la base, ça, c'est la chose quelque part qu'on aimerait vraiment intérioriser profondément dans notre cœur, pas juste que ça reste dans notre tête, mais que ça soit vraiment partie de notre identité. Mais quand ça se passe, ça change vraiment notre attitude, ça change vraiment la manière dont on se comporte, ça change notre vie. Dans le Philippiens, au centre de la lettre, il y a un mot qui est central. Si vous avez, vous pouvez tourner la page, si vous avez la Bible, c'est Philippiens 1, 27. Et il est écrit cette phrase. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Là, c'est vraiment la conduite, c'est la manière dont tu marches, c'est des habitudes de vie. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le verbe à la base, c'est un verbe qui veut dire « marcher comme citoyen ». Conduisez-vous comme citoyen. Ayez une attitude de citoyen. Alors, selon les versions en français, on ne peut pas le traduire parce qu'il n'y a pas de verbe qui veut dire citoyenner, mais il y a des versions comme la Bible du Semeur qui le rendent très bien et qui font ressortir dans ce verbe cette notion « marchez comme un citoyen ». Conduisez-vous en citoyen, vivez, on pourrait le traduire comme ça, vivez votre vie selon les coutumes de votre terre natale. Et les amis, vous êtes nés d'en haut. Le Saint-Esprit est venu, il a touché votre cœur et vous avez vécu une nouvelle naissance. Vous êtes avant tout, vous étiez né, voilà, dans le ventre de votre maman, vous êtes né français, vous êtes né chinois, vous êtes né humain, mais maintenant vous êtes né d'en haut. Et c'est votre nouvelle naissance et notre nouvelle vie est appelée à suivre cette nouvelle naissance, celle que Dieu a faite en nous. Cela change tout. Et quelque part, si c'est vrai, alors quand je rencontre quelqu'un qui est citoyen de la terre et qui n'est pas encore citoyen du ciel, il doit y avoir un choc culturel qui s'opère. Il doit y avoir quelque part une différence. La manière dont vit cette personne et la manière dont je vis, il y a quelque chose qui fait bizarre, qui est étrange. Je ne comprends pas, j'arrive plus à m'associer vraiment à ce qui se passe. Et si je ne sais pas ça, c'est certainement qu'il y a un petit problème. Donc, différents chocs culturels. Mais j'irai même plus loin avec un théologien, un pasteur qui est décédé maintenant, qui s'appelle John Stott. Et pour lui, les chrétiens n'étaient pas juste appelés à être différents parce que leur culture était différente. Ils étaient aussi appelés à imprégner la société et à influencer la société. C'est ce que dit Jésus. Vous êtes sel et lumière de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il ? Il est jeté au sol et on marche dessus. Si la lumière n'est sur la colline n'éclaire pas, elle ne sert à rien. La lumière sert à éclairer les ténèbres. Et en réalité, cette nouvelle conduite de citoyen, elle est appelée non seulement à être différente de celle d'avant du monde, mais elle est appelée à imprégner et à influencer et à faire grandir le monde de manière positive. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ce que toi et moi, Dieu nous appelle à faire et c'est ce qui se passe quand on réalise que notre identité première, notre vie première, elle est dans le ciel. Maintenant, à quoi est-ce que cela ressemble ? Bienvenue. À quoi est-ce que cela ressemble ? Parce que ça peut rester très théorique maintenant, mais concrètement. Et dans notre texte, Paul va développer deux personnages. Un anti-exemple, un contre-exemple et l'exemple pour nous de ce que cela veut dire. Je vais reprendre le texte. Soyez tous mes imitateurs, imitez-moi, frères et sœurs, portez les regards sur ça. Et puis ensuite, verset 18, en effet, il part sur deux exemples. Un contre-exemple et l'exemple des citoyens. Et le premier, verset 18, c'est celui du contre-exemple. Et ce que ce contre-exemple nous dit, ne vivons pas pour le monde. Ne vivons pas pour le monde. Je reprends le texte. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et puis ensuite, quant à nous, ils partent sur l'autre exemple. Généralement, quand quelqu'un rentre dans l'église, il ne porte pas sur le front, quelque part, le badge « ennemi de la croix de Christ ». C'est le texte, c'est le mot qui est pris là, « ennemi de la croix de Christ ». On ne le sait pas forcément. Et dans nos églises, malheureusement, on voit des gens qui ont l'air très spirituels, qui ont l'air très bien sous tout rapport, mais à l'expérience, quand on regarde les fruits, on se rend compte que ça fait mal et que ces personnes ne suivent pas le Seigneur. Et Paul a très certainement ces gens en tête quand il dit, il parle au chapitre 1 de personnes qui proclament l'évangile de Christ par jalousie, parce qu'ils sont jaloux de lui, lui est en prison, et eux sont jaloux de Paul, et ils proclament l'évangile, ils vont dans les rues, ils proclament l'évangile, mais en réalité, ils le font par jalousie. Il parle au chapitre 3 de faux ouvriers, dont il faut se méfier, de faux circoncis, de mauvais ouvriers, qui en réalité font plus de mal. Apparemment, ils sont bien, mais en réalité, ils font plus de mal parce que leur motivation profonde est personnelle, c'est leur propre intérêt qu'ils recherchent. Et dans mon expérience, j'ai été marqué par un homme qui, dans mon église où je suis devenu chrétien, où j'ai grandi, à Amiens, un homme, à un moment donné, est venu et c'était la fin de la carrière pastorale de celui qui était là depuis des années. Et puis, on lui a confié les rênes un peu trop vite à l'église, à ce monsieur. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est un frère ou pas, Dieu le sait. Mais je me rappellerai toujours de cette phrase que mon père m'a dit. Cet homme, c'était pas un berger, c'était un mercenaire. C'était pas un berger, c'était un mercenaire. Cet homme, il n'était pas venu pour servir et prendre soin des brebis. Cet homme, il était venu pour se servir. Il était venu pour ressortir et avoir son salaire. Et on peut, voilà, on veut bénir les pasteurs, on veut qu'ils puissent vivre confortablement, etc. Et ça, c'est pas la question. Mais quand la personne commence à vraiment chercher son intérêt au détriment de celui des brebis, là, il y a un problème. Quand on commence à vouloir une voiture de fonction, augmenter son salaire, etc., alors qu'à côté, ça ne colle pas, là, il y a un problème. Et ce monsieur-là, à un moment donné, on lui a dit, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas la bonne attitude, ça ne va pas fonctionner. Et lui, il a dit, ok, si je m'en vais, je prends la moitié de l'église avec moi. Sinon, signez un chèque. Voilà. L'église, enfin les responsables de l'union à l'époque ont signé un chèque. Le monsieur est parti, quelques personnes sont quand même parties avec lui. Et en apparence, on lui aurait accordé notre confiance, mais en réalité, son cœur n'était pas là. Son cœur, c'était de servir ses propres intérêts. Et c'est ce qui est décrit dans ce texte. Hein. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. On pourrait demander, sous réserve de Laurent, qui est plutôt expert dans la matière, mais des 7e, 18e siècle, on a eu un retour dans notre société à une pensée qu'on appelle le matérialisme. C'est de dire, à la base, avant cela, on partait du présupposé qu'il y avait un Dieu. Et toutes nos pensées, toutes nos réflexions sur qu'est-ce que est l'homme, comment est-ce qu'on considère la société, toutes les questions importantes qui sont les nôtres, on partait du présupposé qu'il y a un Dieu existe. Et à partir de cela, on a changé et a eu cette idée qui est revenue sur le dessus de la table, de dire... Ce qui est vraiment réel, c'est la matière, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Et à partir de ce moment-là, plus de place pour le monde spirituel, plus de place pour Dieu, plus de place pour les esprits. Tout ce qui est réel, c'est uniquement une succession de faits matériels et physiques. Ça a influencé notre société et aujourd'hui, on arrive avec cette influence dans notre vie de tous les jours, qui est l'un des fondements de la société occidentale, qui est de dire Dieu n'existe pas. Et en réalité, même si nous, aujourd'hui, on va à l'église, la grande majorité de notre époque de concitoyens se fondent là-dessus, et ils ne pensent qu'à la terre, qu'à ce monde, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et il n'y a pas de place pour Dieu. Et malheureusement, cette pensée infuse tout. Et alors peut-être que ce pasteur-là, qui était là, il recherchait avant tout un bon salaire, un bon travail, une bonne retraite. Il cherchait la sécurité pour ce monde, la sécurité financière. Mais ces valeurs-là, ces pensées-là, infusent tous les domaines dans lesquels nous évoluons aujourd'hui. Faisons le test un peu de la culture dans laquelle nous avons grandi. Je ne sais pas dans quelle culture tu as grandi, mais faisons le test. J'ai grandi dans une culture où on m'a dit « Trouve le métier qui te plaît ». On m'a dit, tant que tu te fais du bien, c'est bien pour toi. Et j'ai grandi, bien quand on grandit dans l'église, hein, j'étais chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais jeune, mais j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher quelque part ce qui faisait plaisir à mes envies, ce qui faisait plaisir à mon ventre. Hein, ils ont pour Dieu leur ventre. Et alors, les heures et les heures et les heures que j'ai passées devant les jeux vidéo, quand je regarde le bilan à la fin, c'est bête qu'il n'y ait pas de note à la fin pour savoir combien d'heures on a passé, mais je peux vous dire que la note serait salée. Et là, j'ai cherché quelque chose, c'était juste le désir et le plaisir de mon ventre, le désir et plaisir de mes envies. Et puis ensuite, à un moment donné, on se réveille et on se dit « Ah oui, il faudrait quand même bien gagner sa vie, parce que si je ne gagne pas bien ma vie, ben, je ne vais pas pouvoir acheter une belle maison, je ne vais pas pouvoir bien manger, et donc il faut que je trouve un bon métier. » Ou alors je ne vais pas pouvoir prendre soin de ma famille et accorder une sécurité financière à ma famille. Donc il faut que je trouve un bon métier. Et donc on réfléchit à cette carrière, le plan de carrière. Voilà. Et donc on avance, les échelons, etc. Et puis une fois qu'on a ça, qu'on a trouvé le bon plan de carrière, qu'on a la bonne position dans la société, qu'on a un salaire suffisamment important, qu'on a cette sécurité, qu'on est bien, on se dit « Maintenant je vais pouvoir profiter. Je vais pouvoir aller en vacances. L'été, j'ai 5 semaines, c'est super. Et puis je vais pouvoir me dire « Ah, maintenant il faut que je réfléchisse à mon plan de retraite. » Et combien de personnes traversent leur carrière et leur famille en se disant « à la retraite, je vais pouvoir me reposer. Les enfants auront quitté le foyer, ma carrière sera terminée, j'aurai assez de mis d'argent de côté pour me reposer, et ça va être le paradis sur terre. C'est un peu ça. C'est vrai ou pas? Le monde dans lequel on vit. Les gens avec qui on mange au repas. Les amis qu'on a. C'est ça, c'est notre vie. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte, et alors certains pensent que dans ils mettent leur Dieu leur ventre, il y a les désirs, mais ça va jusqu'au désir sexuel. Et puis il suffit de ça, de voir le nombre de connexions sur les sites pour adultes et les statistiques pour savoir qu'effectivement, ce désir-là est l'un des désirs qui est un dieu pour notre société. Le dieu de la pornographie, le dieu de l'argent, etc. Ils ne pensent au final qu'aux réalités de ce monde. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et laissez-moi vous poser cette question. À quoi est-ce qu'on pense le matin, le soir? Est-ce qu'on pense à ce monde ou à autre chose? Est-ce qu'on pense à tout ça ou à autre chose? On est influencé par le monde. Alors, on était censé être lumière et sel de la terre, on était censé influencer le monde, briller, donner du goût, mais au final, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est l'inverse qui nous menace. Il y avait un policier qui donnait l'exemple de cela, c'est on voudrait influencer la société, mais au final, on influence la société à peu près de la même manière qu'un souris a été mangé par un chat. Autrement dit, il est en train de nous digérer et nous absorber. On est absorbé par la société, on est infusé dans la société et on est influencé par lui. On a malheureusement, actuellement, peut-être, j'ose poser la question, peu d'influence là où Dieu voudrait que nous brillions davantage. Alors je ne veux pas être pessimiste, rabat-joie, casser tout dans... Mais est-ce qu'on n'aspire pas à plus ? Quelque part. Est-ce qu'on n'aspire pas à une église qui brille, qui rayonne, à des frères et sœurs qui réellement ne vivent pas pour ce monde, mais qui ils le montrent par leurs actions, montrent qu'ils recherchent une autre patrie, un autre monde. Et l'une des choses qui le montrent, c'est que, je vous ai souvent parlé, ils le font, ils vivent comme cela, et leur fin, c'est la perdition. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit pour eux ? Ils pleurent pour eux. Je le fais maintenant encore en pleurant. Ils pleurent pour eux. Quand je réalise et que je pense à mes amis qui ne sont pas chrétiens et que je pense que leur fin, c'est la perdition et que ça ne me fait rien, cela me donne vraiment une indication de où j'en suis. Cela me donne une indication de mes valeurs. Et je remarque que plus les moments où je suis le plus proche du Seigneur et où ses pensées sont mes pensées et où je remarque que son esprit me conduit, je remarque que quand je pense à ces personnes-là et que je prie pour elles, les larmes viennent parce que je réalise qu'ils sont perdus, non seulement perdus pour l'éternité, mais aujourd'hui, ils sont perdus, ils font les mauvais choix, ils se détruisent eux-mêmes. Ils sont dans cette description-là et leur fin, c'est la perdition. Et je peux vous dire que les larmes viennent. Quelque part, le degré que nous avons de compassion pour les personnes qui sont autour de nous et qui se perdent révèle à quel point nous avons conscience que nous ne sommes avant tout pas de ce monde, révèle à quel point nous avons conscience que nous sommes avant tout ou pas citoyens du monde. Est-ce que nous en avons conscience? C'est la première chose. Nous ne vivons pas pour le ciel, les amis. On ne vit pas pour la terre, on vit pour le ciel. Nous ne vivons pas pour la poussière, nous ne vivons pas pour ces choses-là. Nous ne recherchons pas avant tout ces choses-là. Ces choses-là ont une fin. Les Philippiens étaient fiers d'être romains. Nous avons été en vacances à Rome il y a 2 semaines. Je peux vous dire que tout est détruit. Le Rome de l'époque, c'est des ruines maintenant. Et ces choses que nous poursuivons, que ces gens poursuivent, ce sera des ruines. Revenez à Saint-Maur dans un siècle ou deux, ce ne sera peut-être pas des ruines, mais bon, dans 1000 ans. Mais on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Ce monde va passer, c'est de la poussière. Et c'est pour cela que Paul pleure pour eux. Donc, ne vivons pas pour le... Ils ne vivent pas pour la terre, mais nous vivons pour le ciel. Et c'est le bon exemple, c'est la suite de notre texte. Quant à vous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Notre énergie, notre volonté, nos pensées sont redirigées de cette terre, de la poussière, pour le ciel, vers le ciel. Quelque part, si vous imaginiez un peu votre tête comme un salon, votre salon avec un canapé, et que s'asseyaient dans ce salon les grandes idées de votre vie, le travail, la famille, les choses qui occupent vos pensées, le travail, la famille, le repos, votre loisir préféré, au centre de celui qui est conscient qu'il est citoyen du ciel, il y a cette espérance, le Seigneur revient. Il y a au centre de ses pensées, il y pense souvent, il est content quand il y pense, le Seigneur revient et je vais habiter dans le ciel. Ma vie, avant tout, avant ici, c'est ce qui va venir. Cet personnage occupe nos pensées, dont nous attendons, et nous attendons avec ardeur, avec passion. Je me rappelle la première fois que j'étais à Hong Kong et que je suis arrivé, ça faisait un an que je n'avais pas vu Chloé, et j'attendais Chloé parce que je suis arrivé une semaine avant elle. Je suis arrivé une semaine avant elle, c'est ses parents qui sont venus me récupérer à l'aéroport. C'était la première fois que je l'ai rencontrée en vrai, je peux vous dire que ça a été très sympathique. Et Chloé n'arrivait qu'une semaine après, et je me rappelle de ces longues heures dans la chambre. Non, c'était en fait, je dormais dans le salon, donc j'avais un salon, je tirais un rideau, j'étais dans ce petit lit sur le rideau et j'attendais, j'espérais que Chloé arrive. J'étais là dans un pays étranger, et je ne parlais pas la langue, j'étais là avec ma belle grand-mère, mes beaux-parents, futurs beaux-parents, et j'attendais ma belle et tendre. J'attendais, je languissais, je pensais, ça occupait mes pensées, et c'est cette idée-là qu'il a. Attendons, nous attendons aussi le Seigneur qui va venir et nous délivrer de quoi ? De ce corps de misère, de ce corps de misère. C'est ce qui occupe nos pensées. C'est vers cela que l'on fixe le regard. Et ça peut vraiment changer la manière dont on fait face à notre monde aujourd'hui. Il y a un autre pasteur qui raconte le témoignage d'une grand-mère âgée qui avait le don d'encourager tout le monde. Elle voyait toujours le bon côté des choses. Alors, ce pasteur-là, il allait la visiter pour l'encourager, pour l'écouter. Et au final, à chaque fois qu'il ressortait de sa rencontre, c'était lui qui était encouragé par elle. Parce qu'à la fin, c'était lui qui avait partagé tous ses soucis, tous ses problèmes, et c'était elle qui l'avait écouté, qui l'avait conseillé, qui avait prié pour elle. Parce qu'elle, elle était paisible, elle était en paix. Et un jour, il y a quelque chose qui a changé. Elle a eu un cancer, et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et donc ce pasteur a été la visiter à nouveau sur le lit d'hôpital. Et là, il a vu vraiment que son visage était différent, qu'elle était beaucoup moins rayonnante qu'avant. Quelque chose avait changé en elle. Et donc il est venu, il lui a posé, voilà, comment allez-vous aujourd'hui ? Et elle lui a dit, vous savez, pasteur, c'est difficile d'être joyeux, c'est difficile de garder l'espérance quand on a la tête au fond des toilettes. Et en fait, elle décrivait cette situation où, à cause de la maladie, elle était la tête, là, comme ça, en train de vider ce qu'il fallait vider, mais qu'en réalité, ce qu'elle voyait, c'était ça. Il n'y avait pas d'espérance. Il n'y avait pas d'espoir de s'en sortir. Tout ce qu'il y avait, c'était la maladie, la souffrance. Et puis, dès qu'elle a dit ça, elle a réalisé qu'en réalité, son espérance n'était pas là, mais que c'était beaucoup plus haut. Et elle s'est tout d'un coup illuminée à nouveau. Et elle a dit, mais Seigneur, il est avec moi. Et tu sais, pasteur, ça va aller mieux. Et mon Seigneur va me libérer de ce corps de misère. Mon Seigneur va me libérer de ce corps de misère. Cette phrase-là, c'est le refrain de cette lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous sans cesse. Et je ne sais pas, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce que tu traverses. Je ne sais pas quels sont... Peut-être que tu n'es pas joyeux. Peut-être que tu es lourd. Peut-être que tu fais face à des difficultés. Peut-être que ton corps te fait mal. Peut-être que ton corps est malade. Et on a des sœurs dans l'Église qui font face à des maladies. Mais ce qui est beau dans cette promesse, c'est que ça ne s'arrête pas là et que Dieu, Jésus, qu'on attend avec tant de désir, va venir et par la puissance, le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité, va te donner un nouveau corps. Ce ne sera pas un corps imparfait. Ça va vraiment être une montée en grade. Je ne sais pas quelle partie de ton corps te rend insatisfait aujourd'hui. Moi, les genoux, j'ai un peu mal aux genoux, les cheveux, ça pourrait être mieux. Ça va être mieux. Montez en grade. Je me demande si on va me reconnaître au ciel. Dieu va changer ton corps. Dieu va venir guérir ce qui doit être guéri. Dieu va parfaitement te donner un corps nouveau. Ça, c'est l'espérance et la joie qui s'attachent aux citoyens du ciel. si on reprend encore l'analogie du football, on est sûr de gagner. Aujourd'hui, on est sûr de gagner. Et ce sont des personnes comme cela, des citoyens du ciel qui vivent cela, que nous voulons être en tant que modèle pour ceux qui sont à côté de nous, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. Et c'est des modèles comme ça que nous voulons prendre pour vivre notre vie. C'est eux que nous devons imiter. Voici le début de notre passage, si vous vous rappelez. Soyez mes imitateurs, Paul dit aux Philippiens, soyez mes imitateurs. N'imitez pas les Romains, imitez-moi, frères et sœurs. Et portez les regards sur ceux qui se conduisent en suivant le modèle que vous avez en nous. Et si vous reprenez Philippiens 2, le modèle que vous avez en nous, ce sont des hommes qui ont suivi le modèle de Jésus-Christ, celui qui était Dieu, qui était parfait, qui s'est incliné, qui est devenu petit pour servir les hommes par amour. C'est quelqu'un qui oublie ses priorités pour servir ceux qui sont autour de lui. Et il prend l'exemple de Paul, son exemple à lui, il prend l'exemple de Timothée, d'Épaphras, des gens qui ont été jusqu'à souffrir, Épaphras est tombé malade pour servir les Philippiens. Il a fait un long voyage, il a été malade pour servir les Philippiens. Il prend comme exemple des hommes et des femmes qui suivent l'exemple de Jésus-Christ et parce qu'ils ont conscience que leur identité première est dans le ciel, vivent différemment et se mettent au service de Dieu et des autres. Et alors, mon but aujourd'hui, c'est pas d'être abstrait. J'aimerais finir par, ok, aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment est-ce qu'on peut être ces modèles? Comment est-ce qu'on peut suivre ces modèles? Et pendant longtemps, dans l'Église, j'ai cherché des modèles. Aujourd'hui, je viens d'être diplômé de l'information biblique. Je suis un jeune pasteur qui cherche des modèles. Des gens qui vivent comme cela, qui sont citoyens du ciel. Et je peux vous dire que dans cette Église, j'en ai vu, j'en ai trouvé. Et des gens qui me servent de modèle aujourd'hui, et j'en cherche encore, toujours plus. Et j'espère moi aussi être un modèle. Mais j'ai vu une famille... Lui, réalisateur de films, de reportages professionnels, elle, professeur des écoles, avec des petites filles qui ont tout quitté et qui ont été dans un village au sud de l'Afrique, au nord de l'Afrique, dans un petit village où il y avait un dialecte qui était parlé que là-bas pour partager l'évangile avec un chrétien connu de tout le village. Et ils sont là depuis des années et ils servent. Ils ont abandonné leur situation pour que des gens, là où vraiment il n'y a aucune chance de connaître et d'entendre l'évangile, puisse l'entendre. Je pense à cet ingénieur en aéronautique. Justement, c'est la famille Salmeron, pour ceux qui connaissent. Là, je parle de la famille Ouaba. C'est un ingénieur en aéronautique avec son épouse et ses filles qui ont quitté leur sécurité financière, qui ont fait ce pas de foi pour répondre à l'appel de Dieu et qui sont retournés sur les bancs de l'école pour se former et devenir pasteurs et servir les frères et sœurs. Ils ont renoncé à une sécurité financière, ils ont renoncé à l'assurance d'avoir une belle maison, leur retraite n'est certainement pas la même, mais ils ont eu cette vision qu'ils sont avant tout citoyens du ciel. Je pense aussi à un père qui est décédé maintenant, un modèle dans l'Église, Charles Spurgeon, qui a écrit beaucoup de livres, mais il était dépressif et qui, malgré sa dépression, a continué à servir fidèlement les frères et sœurs avec des hauts et avec des bas, mais il a travaillé plus que beaucoup d'autres pour servir les frères et sœurs. Je pense aussi à des personnes comme la femme de Jimmy Elliot, lui qui était missionnaire, il a été missionnaire en Amérique du Sud, et alors qu'il est arrivé là-bas, dès le début, il a été mis à mort par les aborigènes. Et sa femme, quel exemple, elle n'a pas haï ces personnes, mais elle est retournée là-bas, et elle leur a partagé l'évangile. Et le village s'est tourné à Christ. Elle a vraiment eu cette vision avant tout du ciel. Maintenant, vous allez me dire, ok Clément, mais ça c'est tous des personnes qui ont quitté leur travail et qui sont devenues missionnaires, pasteurs ou autres. Et moi, je ne suis pas forcément appelé à ça. Et c'est vrai, amen, gardez votre travail. Mais il y a des exemples aussi dans le monde de tous les jours. Et c'est ça qui est beau, c'est que je suis certain qu'il y a dans le ciel des personnes qui sont peut-être hommes, femmes de ménage, concierges, médecins, etc., qui, en réalité, ont été plus fidèles à l'appel de Dieu pour eux et qui ont été plus fidèles que des pasteurs ou des missionnaires parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur demandait de faire, mais ils l'ont fait de manière qu'ils montraient qu'ils étaient avant tout citoyens du ciel et qu'ils ne cherchaient pas juste à accumuler des choses pour cette terre. Et je recherche ça dans toutes les sphères de la société. Je recherche, attention, des militaires comme Corneille, qui prie, on dit dans l'acte, qu'il priait et qu'il donnait beaucoup d'argent et ne cessait de prier Dieu. un militaire qui donne beaucoup d'argent pour le peuple de Dieu et qui ne cesse de prier Dieu. Je cherche des retraités âgés de 87 ans qui, comme Anne, dans Luc 2, prient et servaient le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Veuve, elle s'est mariée 8 ans, elle était veuve tout le reste de sa vie, elle s'est jamais mariée et toute sa vie, elle a servi le Seigneur dans le jeûne et la prière. Je cherche des couturières comme Tabitha, qui sont un exemple de vie de service. Elle a utilisé ses dons et ses compétences professionnelles pour servir. Il nous est dit dans Acte 9 qu'elle faisait beaucoup de bien, elle faisait des vêtements pour les femmes, et quand elle est décédée, les femmes pleuraient parce qu'elle était une bénédiction pour elle. Je cherche des gens qui sont des serveurs, ils servent aux tables comme Étienne, mais qui argumentent, qui discutent, qui ont un esprit bien conçu pour démonter les arguments et pour défendre l'évangile dans leurs discussions. Il y a des gens dans cette salle qui ont des dons d'apologétique et ça va tout à fait avec leur travail. Je cherche des gens qui sont prêts à souffrir, peu importe leur maladie, comment ils sont atteints dans leur chair, mais qui sont prêts à souffrir malgré cela pour aller et servir ceux qui ont besoin, comme Paul, comme Timothée, comme Épaphras. Je pense à une femme retraitée, pas très loin d'ici, qui... alors qu'elle a vu une sœur qui venait de perdre sa fille dans une circonstance dramatique, n'a pas fait comme tous les autres. Là où les autres lui disaient à cette femme, « Bon courage, Dieu est avec toi, on va prier pour toi. » Et cette femme, elle ne comprenait pas ce qui était arrivé, elle venait de perdre son enfant, elle ne pouvait juste rien entendre, elle ne pouvait pas entendre même le nom de Dieu, elle était juste terrassée, et on la comprend. Eh bien, cette sœur, elle a compris le besoin de la personne qui venait de perdre son enfant. Plutôt que de juste parler, d'encourager et de prier, elle a pris le temps. Elle est venue visiter cette femme jour après jour et elle s'est tenue à ses côtés. Elle a cuisiné avec elle, mais elle n'a rien dit. Elle est restée silencieuse. Elle est juste restée à côté et elle l'a aimée. Et moi, je peux vous dire, quelqu'un qui vit comme ça, je vois quelqu'un qui aime sa sœur et qui vit pour le royaume. Elle n'a pas fait quelque chose qui va rentrer dans les annales, mais sa vie était consacrée pour cela. Et puis la liste peut être longue. Un frère bricoleur qui met ses compétences au service de l'Église et de ceux qui ont besoin, qui utilise ses compétences professionnelles pour bénir les autres au-delà de ce que lui peut en retirer. Je cherche des frères et des sœurs qui ouvrent leur maison pour accueillir. Des frères et des sœurs qui offrent leur voiture parce qu'il y a un couple pastoral qui est sans le sou et qui arrive à Ponto Combo et qui n'a pas moyen de se déplacer. Et merci Seigneur, on l'a trouvé. Je cherche des frères et des sœurs qui donnent de leur temps pour aimer, pour écouter les personnes âgées qui sont seules dans les quartiers et qui n'ont personne qui se soucie d'eux. Franchement, je pense que ça, c'est un sujet qui revient sans cesse, mais on est dans une société vieillissante, les personnes âgées sont là et personne ne se soucie d'eux. Et la culture française va tellement à toute allure que, en fait, quand on se rappelle d'eux, c'est déjà trop tard. Je pense que quelqu'un qui prendra leur soucis à cœur montrera qu'il ne vit pas que pour ce monde-là. Je cherche des pères et des mères qui acceptent que leurs enfants renoncent à une grande carrière parce que Dieu les a appelés au ministère, parce que Dieu les a appelés à la mission. Et dans la culture chinoise, ça fait mal. Dans la culture française aussi, mais je crois encore plus dans la culture chinoise. On veut que notre fils devienne grand, Wang Zhechanglong. On veut qu'il devienne un dragon, que notre fille devienne un phénix, qu'il réussisse, que c'est ce qu'il devienne président presque. Chloé disait, non, désolé, je ne peux pas parler de Chloé sans son autorisation. Non, sa maman disait à Chloé, j'aimerais que tu pourrais devenir présidente. Mais c'est un peu ça, c'est tu peux voir grand. Mais quand Dieu appelle un enfant à renoncer à un grand salaire et à un succès selon ce monde pour être serviteur de Dieu, est-ce qu'on est prêt à l'accepter et à porter sa croix en tant que parent? Je cherche pour finir avant la conclusion des personnes dirigés par l'Esprit, qui sont prêts à écouter Dieu dans leur quotidien, dans leur travail, et à accepter de faire ce que Dieu leur demande à faire. Et ça va être différent pour chacun d'entre vous. Là où tu es, que tu sois étudiant, que tu sois médecin, que tu sois comptable, que tu sois infirmier, que tu sois agent immobilier, j'essaie de faire les métiers là dans ma tête. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, si tu te mets à l'écoute de Dieu, il va te dire comment est-ce que tu peux être citoyen de Dieu et faire passer son royaume avant les intérêts que tu peux avoir dans ce monde. Ça demande de se mettre à genoux, d'écouter, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour m'abaisser, m'incliner et servir ceux que tu aimais autour de moi? Prier, évangéliser, sortir dans la rue, vivre une vie exemplaire qui se donne pour les autres, argumenter dans nos discussions, oser avec assurance et courage dire voici ce que je crois, voici ce que tu crois n'est pas vrai et voici pourquoi. S'engager pour les causes qui sont chères dans la politique, être prêt à souffrir. Et je conclue. J'ai peut-être été un peu long, je m'excuse. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. C'est Paul qui parle, je ne vous dis pas de m'imiter moi, mais notre plus grand exemple, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre plus grand exemple. Alors, comment vas-tu vivre ? Qui est-ce que tu vas imiter ? Sur qui est-ce que tu vas et tu peux porter les regards ? Dans quel domaine de ta vie les choses ont besoin d'être réalignées pour que ce soit le royaume qui soit mis en avant ? Ce soit le royaume qui ait la première place, ta patrie céleste. Quel choix est-ce que tu dois faire ? Peut-être que tu dois te réaligner dans la justice, peut-être que tu as truandé au travail, peut-être que tu as fait des mauvais choix au travail et que tu dois confesser et arrêter ça. Peut-être que tu t'es été absorbé par des loisirs sur l'ordinateur, sur Internet, qui t'ont détourné de Dieu, qui ont fait que tu ne fais que te concentrer sur ce monde et que tu oublies que la vie est avant tout éternelle. Peut-être que tu as été absorbé, concentré par tes loisirs ou par ta vision de ce qu'est une vie réussie, et ça inclut une retraite, travailler pour la retraite, un investissement immobilier, mais tu oublies que tout cela, en fait, ça va passer. Et que tu as besoin, si tu veux faire ces projets-là, de dire, c'est pas pour moi, mais c'est avant tout pour ton royaume, parce que rien ne m'appartient à moi, mais tout appartient au Seigneur. Peut-être que c'est dans ton temps. Tu ne prends pas le temps avec le Seigneur. Tu vis pour ta vie, mais ta vie, il n'y a pas de place pour le Seigneur. Matérialisme, Dieu n'a pas de place. Tu es citoyen du ciel, mon frère et ma sœur. Et j'ai hâte de voir encore davantage dans vos vies comment ça va se passer. Je l'ai déjà vu. On a été bénis par vous, je l'ai dit au début. Et je sais que je vais voir des choses encore belles. J'ai hâte de voir comment est-ce que Dieu va continuer à le faire dans vos vies. Courir pour son royaume. Courir pour son royaume. Je termine avec ce passage. Et je prie que nous puissions vivre cela, être ces personnes. C'est la liste des héros de la foi, tel qu'on les appelle dans Hébreux 11. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, est-ce qu'on parle ainsi ? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous sommes citoyens du ciel, les amis. On ne va pas vivre pour la poussière. On ne va pas vivre pour quelque chose qui va passer. Vivons pour le ciel. Vivons pour l'éternité. Que le Seigneur puisse être fier d'être appelé notre Dieu. Moi, j'ai hâte qu'il puisse me dire fier et viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et je prie que Dieu nous en protège parce qu'effectivement, la tentation est grande. Je termine par la prière. Seigneur, Seigneur, merci parce que tu nous as montré l'exemple, c'est toi qui as quitté le ciel pour venir sur la terre. Tu nous as montré ce que c'est que de renoncer à soi-même pour plus grand, pour sauver des âmes. Et je prie, Éternel, que nous puissions avoir cette même conscience, Seigneur. Je prie qu'alors que nous sommes ici dans notre travail, que nous sommes ici dans notre famille, que nous sommes ici dans cette église, que nous ne soyons pas des personnes qui sont influencées par le monde au point d'oublier notre destination, mais que nous puissions vivre pour toi, vivre pour le ciel, vivre pour ceux qui y sont autour de nous et qui en ont besoin, que dans nos choix et dans notre manière de gérer notre argent, notre vie de prière, notre manière de gérer notre temps, de gérer nos projets, nous puissions montrer que notre culture est différente et que nous vivons pour le ciel. Seigneur, nous avons besoin d'être changés, transformés, touchés par ton esprit pour le vivre. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire, et je prie, Seigneur, que tu le fasses par ta puissance. Merci encore pour les frères et sœurs qui sont ici dans cette église à Saint-Maur. Merci pour l'œuvre incroyable que tu as faite dans leur vie. Merci d'être venu, merci de les avoir touchés, merci de les avoir sauvés, merci de les avoir donné cette nouvelle nature, merci de leur avoir donné cette identité de citoyen du ciel. Merci parce que je crois que ce que tu as commencé, tu vas l'accomplir, tu vas le terminer. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses les bénir avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs parents, afin qu'ils puissent vraiment vivre vivre cette vie-là et fixer les yeux sur le but, sur toi, sur cette espérance, en ayant cette attente, le Seigneur revient. Seigneur, bénis-les abondamment, parce que Seigneur, tu sais que tu les aimes et tu sais à quel point ils sont chers à tes yeux, ils sont chers à ton cœur. Je prie que tu leur fasses du bien et que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.